Donc, je disais, on va regarder un texte un peu surprenant. Vous allez voir, par rapport à notre préparation spirituelle pour l'année qui vient. Vous savez, cette semaine, j'échangeais des vœux. Tu veux dire quelque chose? Oh! Non. Alors, il n'y a pas de Pays des Merveilles aujourd'hui, fait que vous allez m'écouter, vous allez même participer. Les enfants vont participer un peu, et les ados aussi, c'est vraiment pour tout le monde. C'est une bonne question. Puis en passant, est-ce que c'est dimanche prochain que le Pays des Merveilles recommence? Le 7 janvier, semaine prochaine. Cette semaine, il y a j'échangeais des vœux de bonne année avec une sœur, puis elle a prononcé ce vœu de bonne année sur moi. Elle a dit ceci: en 2018, que tu puisses, Marc, faire un pas de plus pour te rapprocher de Jésus. Que tu puisses faire un pas de plus pour te rapprocher de Jésus. Et j'ai vraiment apprécié ce vœu, parce que ça résume la vie chrétienne. Je veux toujours me rapprocher de Jésus. Amen. Et non pas qu'il est loin de nous, si on a reçu Jésus-Christ, il habite en nous, puis il possède nos vies. Il y a Albert Simpson qui a écrit une fois que être chrétien, on est comme une bouteille vide, sans bouchon, qui est jetée dans la mer. Alors, on peut dire que cette bouteille-là, elle devient remplie de la mer, puis... Mais en même temps, la bouteille, elle est dans la mer. La mer est dans la bouteille, puis la bouteille est dans la mer. Puis c'est la même chose pour nous. Jésus est très proche de nous quand on est chrétien. Il est en nous. Et nous, on est en lui. Mais c'est nous qui nous éloignons de lui. C'est nous qui, dans nos cœurs et dans nos pensées, on peut être disconnecté de comment il est vraiment. Notre texte de ce matin... ça parle de cadeaux qui ont été offerts à Dieu. On va parler de Genèse chapitre 4 où deux frères, Caïn et Abel, offrent des cadeaux à Dieu. Et moi, le jour de Noël, j'ai offert plusieurs cadeaux et j'ai offert un cadeau à mon neveu qui a 10 ans, qui s'appelle Luc Étienne. Puis ce cadeau, c'était le nouvel album d'Astérix. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu ou qui l'ont reçu. Astérix et la Transitalique. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui? Ton frère, il l'a eu. Bon. Il a quel âge, ton frère? C'est ça, 9. Bien, Luc-Étienne a 10 ans. J'ai pensé qu'il aimerait ce cadeau Astérix. Mais vous savez quoi? Dans la réalité, il ne l'a pas tellement aimé. Savez-vous pourquoi il ne l'a pas tellement aimé? Hein? Non? C'est parce qu'il l'avait déjà. OK. Il l'avait déjà. Donc, voilà, je vais aller revoir le libraire, je vais y ramener, je vais y prendre un autre album. Je pense que je vais lui prendre Astérix et la Serpe d'or. C'est un autre Astérix. Et puis, espérons que celui-là, il ne l'a pas. Puis, ça ne serait pas une mauvaise idée. Par contre, plus tard dans la fête, j'étais avec Luc Étienne, puis j'y ai montré une application gratuite sur mon iPad où tu peux faire de la musique. Et il a été vraiment fasciné par ce programme. Et il a pris mon iPad et je n'ai pas vu mon iPad de toute la soirée parce qu'il a fait des compositions sur mon petit iPad pendant toute la soirée. Et c'est drôle. Moi, je pensais qu'il allait aimer l'Astérix, puis ce n'est pas ça qu'il a aimé. Puis je n'ai pas pensé qu'il serait si fasciné que ça par le logiciel de composition, puis c'est ça qu'il a aimé. Et nous, les humains, là, on est unique dans nos goûts, nos préférences, les cadeaux qu'on aime puis qu'on n'aime pas. Puis même si lorsqu'on reçoit des cadeaux à Noël, quand même, il faut être poli, il faut toujours dire merci. Il faut toujours dire « Ah, j'aime ça », même si ce n'est pas vrai. et il faut, c'est sûr qu'il faut exprimer de l'appréciation, mais c'est sûr quand même qu'il y a des cadeaux qu'on aime plus que d'autres. Est-ce qu'on est tous d'accord? Il y a des cadeaux qui nous font triper et d'autres qui vont nous laisser indifférents pour telle ou telle raison. Alors, ce qui est important ce matin, c'est de comprendre qu'avec Dieu, c'est la même chose. Il faut s'attendre à ce que Dieu, qui est un être personnel, avec ses préférences propres, qu'il est libre, Dieu est libre dans ses affections et ses préférences, infiniment plus que nous-mêmes. Dieu est libre. Et mon message de ce matin est un peu à ce sujet-là, et c'est simplement ceci. C'est que pour faire un pas de plus vers Dieu en 2018, il faut commencer par accepter que Dieu est libre. Dieu est Dieu et Dieu est libre. Dans notre relation avec lui, c'est lui qui est Dieu, pas moi, pas nous. C'est moi qui dois m'adapter à sa liberté. C'est moi qui dois m'adapter à ses désirs à lui et pas l'inverse. Comme on a chanté tout à l'heure, tout est pour toi, Jésus. Il ne faut pas que je pense que tu dois... c'est quoi qu'on a chanté dans le premier chant? Comme je l'entends. C'est pas comme si tu dois t'adapter comme je l'entends. C'est vraiment toi, Dieu, dans cette relation et pas l'inverse. Alors, voyons une histoire de l'Ancien Testament. Puis là, j'ai besoin d'aide de lecteurs, peut-être des jeunes, là, des 18 ans et moins. Oui, Élie, viens ici. Josué, viens-t'en ici. Tu veux lire aussi, Betsa? Tu as levé la main, alors viens. Alors, toi, tu vas lire la première diapo. Toi, tu vas lire la deuxième. Et puis, je vais lire les autres. Let's go! Donc, alors, n'oubliez pas, on a parlé de la chute. On a parlé de la promesse. Adam et Ève ont vécu un drame terrible. Ils ont fait une erreur terrible et ils ont été chassés du jardin. Et voici la suite. Et Dieu a montré sa grâce, hein? Dieu a fait des promesses. Alors, vas-y, écoutez bien, puis c'est Josué qui va lire la première diapo. Vas-y. Excellent, merci beaucoup. Et vous pouvez aller vous asseoir. Et moi, je vais continuer la lecture parce que l'histoire continue. Cependant, Caïn dit... Ah oui, c'est ça, j'ai pas besoin de l'autre micro. Je vais être doublement amplifié. Cependant, Caïn dit à son frère Abel, « Allons dans les champs. » Et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? » L'Éternel dit alors, « Qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Désormais, tu es maudit, chassé loin du sol qui s'est entrouvert pour boire le sang de ton frère versé par ta main. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus toutes ses ressources. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, « Ma peine est trop grande pour être supportée. Voici que tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de toi. Je serai erré et vagabond sur la terre et toute personne qui me trouvera pourra me tuer. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé cette fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, afin que ceux qui le trouveraient ne le tuent pas. Amen. Seigneur, encore une fois, ouvre nos cœurs pour qu'on puisse comprendre ton message dans ce texte. Amen. Alors, c'est une histoire tragique. C'est le récit du premier meurtre. C'est la suite de la chute, les conséquences. Elle a des applications pour nous aujourd'hui. Moi, je veux attirer votre attention sur trois personnes dans cette histoire. Et on va, en fait, je vais avoir quatre paragraphes parce qu'on va regarder un premier personnage deux fois. Premièrement, l'Éternel, le Dieu qui est libre. Deuxièmement, Abel, qui est le croyant qui va souffrir. Troisièmement, Caïn, le pécheur appelé à la repentance. Et puis quatrièmement, l'Éternel encore, l'Éternel qui est le sauveur du pécheur. Premièrement, l'Éternel, le Dieu qui est libre. Un peu comme Luc Étienne, mon neveu, qui était libre dans son cœur de préférer certaines choses à d'autres. Dieu exprime ici sa personne. Il exprime ses préférences face aux deux offrandes qui lui sont faites, une par Caïn et l'autre par Abel. Alors, si Dieu va faire savoir à Abel sa préférence pour son cadeau, c'est en fait pour l'encourager à aller plus loin dans la même direction. C'est un peu pour dire, oui, ça, j'ai aimé ça, continue dans cette direction-là, Abel. Puis en même temps, il y a un message là pour Caïn. Caïn qui doit apprendre de comment Dieu s'exprime ici. L'amour de Dieu est là pour les deux frères. Pour Caïn, c'est Dieu qui lui dit, je veux que tu t'orientes dans une nouvelle direction. Alors, pourquoi est-ce que Dieu a préféré l'offrande d'Abel? Il y a un indice dans le verset 5, le voici, 4 et 5. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Alors, c'est intéressant qu'il n'est pas question juste que Dieu regarde l'offrande, mais Dieu regarde la personne et l'offrande de la personne, voyez-vous? Et donc, il y a quelque chose que Dieu a vu à l'intérieur de chaque personne. Et l'Épître aux Hébreux nous explique et confirme cette intuition, c'est que c'est marqué que c'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle, c'est-à-dire c'est grâce à la foi qu'il a été déclaré juste. Très intéressant. Donc, contrairement à Caïn, Abel a offert son sacrifice dans une attitude de foi envers Dieu. Et la foi, dans la Bible, on comprend ce que c'est de réaliser, mais finalement, Dieu, tu es grand, tu es pur, et moi, je suis un pécheur, je fais appel à toi, je fais appel à ta miséricorde, montre-moi ce que je dois t'offrir, j'ai confiance que tu vas me pardonner, j'ai confiance que tu vas me montrer quoi faire. C'est cette attitude-là que Dieu a vue dans Abel, et cela a fait plaisir au cœur de Dieu. En fait, on apprend ailleurs dans la Bible que cette attitude de la foi touche le cœur de Dieu, peu importe finalement le cadeau qui est donné. Hein? C'est pas tellement le fait que Abel a donné une brebis ou des moutons. Mais parlons d'Abel un peu, là. Abel, c'est le croyant qui souffre parce qu'il a exprimé sa foi, mais finalement, il a payé de sa vie l'expression de sa foi. Abel, là, c'est le petit frère. Alors, bon. C'est le deuxième. C'est le deuxième parmi les fils, c'est le plus jeune. Et la manière qu'on raconte la naissance des deux premiers enfants, les deux premiers fils d'Ève, ben le préféré, ça a tout l'air d'être Caïn. Quand Caïn y est né, Ève, elle s'exclame de joie. C'est son premier fils après le grand drame. Et elle est tellement heureuse, elle dit, « Oh, j'ai acquis un fils de la part de l'Éternel. » Et elle appelle son fils Caïn, qui veut dire « acquis » ou « acquisition ». Et alors, c'est comme, elle est vraiment heureuse, elle est presque fière du fait que Dieu lui a donné ce premier enfant, et elle l'appelle « acquisition » ou « Caïn ». Abel, c'est le deuxième fils. Vous savez ce que ça veut dire en hébreu, Abel? Vapeur. Bon, je ne sais pas pour vous, mais moi, entre ces deux prénoms-là, je préférerais m'appeler acquisition. Mais semble pour mon estime de soi, c'est mieux que vapeur. Je ne sais pas. Oui, c'est ça. C'est le deuxième, c'est la vapeur. Bon. Puis Abel, lui, il choisit un nouveau métier. Hein? Caïn, c'est le fils aîné. Il fait la même chose que son père. Il cultive la terre. Et Abel, il se lance dans quelque chose de moins connu. Il s'occupe il élève des animaux. Et c'est quand même surprenant que Dieu préfère son offrande à lui. Mais comme j'ai dit, Dieu regarde au cœur et il a aimé ce qu'il a vu dans le cœur d'Abel. Les enfants, vous savez que souvent, dans la Bible, Dieu, il va se révéler au plus petit. Des fois, il y a deux personnes, puis il y en a un qui est plus impressionnant et un qui l'est moins, puis c'est au moins impressionnant, celui qui est plus petit, celui qui est plus marginal, celui qui est plus faible, auquel Dieu va vraiment connecter, va se révéler. Je ne sais pas si vous connaissez d'autres exemples dans la Bible où ça s'est arrivé, où Dieu choisit le plus petit. Donc, il y a Abel ici. Est-ce que vous pensez à d'autres histoires? David, c'est le plus petit des frères dans la famille d'Isaïe. Il y a plusieurs cas comme ça. On pense à Jacob aussi. Jacob, c'est le deuxième dans les jumeaux. Souvent, les plus petits sont davantage prêts à accepter Dieu dans sa liberté et dans sa majesté. Hein, souvent, les plus forts, ils veulent imposer à Dieu des conditions. Puis avec Dieu, ça ne marche pas. Mais peu importe qu'on soit grand ou qu'on soit petit, l'important, c'est d'avoir cette attitude de foi envers Dieu, la confiance en Dieu. Réaliser que je suis esclave du péché depuis la chute, que je n'ai rien en moi-même à offrir à Dieu, excepté les mains vides de la foi, et que je tends vers Dieu dans la contrition et aussi dans la confiance. Oui? Oui. Un peu, oui. Moïse, c'était le bébé qui a failli mourir, et puis c'est celui que Dieu a choisi. C'est vrai. Si j'offre cette foi, et cette foi seule, ça veut dire que je m'attends à la grâce de Dieu. Puis ça, Dieu aime ça. Et lorsque je me tourne vers Dieu de la sorte, c'est là que Dieu, il m'agrée. Et il va mettre dans mes mains quelque chose à lui offrir en retour. Puis dans la Nouvelle Alliance, ça c'est mon cœur. Mais ça a toujours été le cœur, finalement. Puis, même, je dirais, notre nouvelle vie transformée par Christ, on se retourne puis on l'offre à Dieu. On est devenus des brebis de Dieu, puis on s'offre soi-même à Dieu. Et peut-être que les brebis que Abel a sacrifiées sont des symboles de nous. Nous qui, en retour du salut gratuit en Christ, qu'on reçoit par la foi, bien, on lui offre nos vies. Hein? On donne tout au Seigneur. Et c'est lui qui nous permet de faire ce sacrifice d'action de grâce. pour Abel. Quelle joie pour Abel que le petit frère qui offre ce qu'il peut, et puis Dieu voit sa foi, il fait la joie de Dieu, puis Dieu lui communique, puis quelle joie! Et puis en même temps, il va manger beaucoup de souffrance. En tout cas, il va être haï de son frère, d'abord par la jalousie, puis il va se faire tuer par son propre frère. Peut-être que vous, dans votre famille ou parmi vos collègues de travail, il y a quelqu'un qui vous regarde d'un mauvais œil, peut-être qui est méchant avec vous, parce que vous avez découvert la paix avec Dieu. Et cette personne-là ne comprend pas encore Dieu et il vous en veut. Ça peut arriver. Sachez que vous êtes en bonne compagnie. Déjà, dès le début de l'humanité, ceux qui ont placé leur foi en Dieu et ont reçu la grâce de Dieu ont été persécutés et parfois même tués. Nous devons tenir ferme et continuer à prier pour ceux qui sont comme Caïn et qui ne comprennent pas encore. Parlons un peu de Caïn maintenant. Caïn est le pécheur qui est appelé à la repentance. Il ne faut pas penser que cette histoire, Dieu a toujours haï Caïn et il veut l'éliminer. Non, ce n'est pas du tout ça qu'on voit quand on étudie le texte. Premièrement, j'aimerais dire que malgré la chute, Caïn et Abel, ils ont gardé l'instinct, le désir d'adorer Dieu. Et c'est très intéressant que les humains, ils gardent dans leur conscience qui peut être corrompue à différents degrés. Tout le monde est affecté par le péché, mais la plupart des humains, ils ont un sentiment religieux. Ils veulent adorer le Dieu qu'ils ne connaissent pas encore. Et voilà ce que font Caïn et que fait Abel. Caïn représente tous les êtres humains, finalement. On a cet instinct religieux, mais on est né avec cette maladie contagieuse qui est le péché, qui est la séparation avec le Créateur, et ce qui fait qu'on va toujours se fourvoyer dans nos efforts religieux pour reconnecter avec Dieu. On va prendre des mauvais chemins. Et il y a toutes sortes de religions sur la terre, toutes sortes de formes de sacrifices. Et on voit bien par la Bible que presque toujours, ces sacrifices-là ont des éléments qui déplaisent à Dieu parce que ça sous-entend des fausses images de Dieu. Et c'est ce qui se passe ici avec Caïn. Caïn, à la surface, c'est un bon gars. Caïn, à la surface, c'est un fils aîné très prometteur. En passant, si tu es un fils aîné, ça ne veut pas dire que tu es un Caïn, là. C'est fait pour qu'on puisse apprendre. Peu importe notre position dans la famille, on est tous appelés à placer notre confiance en Dieu, comme Abel. Caïn, finalement, il est typiquement humain. Sa religion est typiquement païenne et son sentiment religieux, malheureusement, est typiquement pourri. C'est le péché qui corrompt le désir normal dans l'être humain de vouloir adorer Dieu et l'envoyer dans une mauvaise direction. Caïn offre des cadeaux à Dieu, des sacrifices, mais en tant que sa propre œuvre, il semble avoir l'attente, je parle de Caïn, il semble avoir l'attente de constituer un crédit avec Dieu. Un crédit, les enfants, ça veut dire que je te donne quelque chose, mais tu vas me redonner en retour après. Je te donne, puis tu vas me devoir. Avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. C'est ce qu'on voit ici dans l'attitude de Dieu dans cette histoire. Et lorsque Dieu exprime librement sa préférence pour un autre type de don et d'attitude, Caïn, au lieu d'apprendre pour se corriger, Il ferme son cœur. Il s'impatiente. Il désespère. Il se laisse aller au cycle infernal de l'endurcissement du cœur. On voit que Dieu l'invite dans un processus d'apprentissage. Hein? Quand il lui dit, écoute, pourquoi t'es abattu? Relève la tête. Caïn, il est trop fâché, puis il se laisse aller à une autre pensée. Sa religion, finalement, est individualiste, compétitive. Quelqu'un fait mieux que lui. Il est fâché. Il est jaloux. Il se laisse aller à la haine, puis à la violence. Dans tout cela, le cœur de Caïn reste séparé de Dieu. Et même lorsqu'il exprime son regret, hein, au verset 14, il dit « Ma faute est trop lourde ». Mais au fond, ce qu'il trouve lourd, c'est pas que la relation avec Dieu a été endommagée par son péché, c'est qu'il a eu des conséquences, il a eu des punitions. Et il dit « Ben là, maintenant, la terre me condamne, parce que Dieu a fait que la terre qui a reçu le sang de son frère va maintenant être plus dure avec Caïn, va toujours lui rappeler la mort de son frère. Et Caïn, ce qu'il déplore, c'est pour lui-même, c'est les conséquences de punition qu'il a reçues. C'est pas la repentance qu'on voit chez lui, malheureusement. Dieu essaye de lui expliquer comment mieux faire à l'avenir, mais lui ne veut pas y croire. Il se laisse aller au doute, à la peur, et finalement, il va fuir loin de la face de Dieu. Revenons à l'Éternel maintenant. L'Éternel, c'est le sauveur du pécheur, même après le meurtre. Ce que je voulais ajouter ici, oui, c'est ce que je vous disais tantôt. D'abord, quand Caïn est fâché, Dieu essaye de le ramener. Il lui dit, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi abordes-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si, en revanche, tu agis mal, le péché va être couché à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. » On voit ici Dieu appeler Caïn à corriger le tir. Parce que Dieu l'invite dans une relation. Vous savez, la grâce de Dieu, c'est bien. La grâce de Dieu, on peut la recevoir instantanément, mais en fait, elle est là parce que Dieu nous invite dans une relation, puis une relation qui demande du travail. C'est comme un papa qui apprend à son enfant de 1 an à marcher. Oui, Dieu, le papa, il fait ça avec amour, mais l'enfant doit travailler avec le papa pour apprendre à marcher. Puis quand il tombe, le père va le corriger, pas le punir, mais va lui montrer comment mieux faire. Et finalement, l'enfant va apprendre à marcher. Puis Dieu invite Caïn là-dedans, puis Caïn ne veut pas. Est-ce que Caïn va finir par se repentir? Puis entrer dans la relation avec Dieu. Pensez-vous? Toi, tu penses que non? C'est ça, le texte ne nous dit pas, malheureusement. Mais un jour, Caïn, il s'est réveillé. Il a compris la grâce de Dieu. Il s'est jeté dans les bras de miséricorde de Yahvé. Non, malheureusement, il n'y a pas ça. Puis il fait qu'on ne sait pas. On ne sait pas, mais ce n'est pas grave, parce que ce qui est important, c'est que le texte nous amène à réfléchir sur nous-mêmes. Est-ce que moi, je veux apprendre à plaire à Dieu? Est-ce que moi, je veux apprendre à marcher dans la foi avec Dieu? Moi aussi, j'ai un cœur comme Caïn. Je veux que les choses soient comme je l'entends. Je veux offrir à Dieu, puis recevoir en retour. C'est ce que je veux, c'est-à-dire, c'est ce que mon ancienne nature veut. Puis Dieu, il veut m'apprendre l'inverse. Vous savez, je voulais mentionner que Dieu, il va bannir Caïn parce que c'est ça, à cause du meurtre. Mais en même temps, il met un signe de grâce sur Caïn, qui est que Dieu le protège du meurtre, de l'assassinat de vengeance, parce qu'il a tué son frère. Et c'est un signe qui ressemble à ce que nous, on a en Christ. Vous savez que l'Apocalypse dit que Dieu y met sur le front de tous ses serviteurs un signe de sa protection. Apocalypse 7, verset 3. Et ça, ce signe-là, c'est le sang de Christ. Alors, Caïn est un peu le symbole de nous. Alors, Caïn n'est pas encore devenu un croyant. Il n'est pas encore repenti, mais il a déjà sur sa tête comme le signe qu'il peut encore se repentir. Dieu met un signe de sa grâce sur sa tête. Et nous aussi, bon, on est sauvés par le sang de Christ qui est déjà, qui nous couvre déjà. Et en même temps, on est comme Caïn, on doit continuer à apprendre à marcher avec Dieu. Puis c'est à ça que je veux qu'on réfléchisse pour ce qui s'en vient pour nous, c'est-à-dire 2018 qui commence. Dans ma dernière partie ici, au fond, c'est ça, je ne me souviens plus. Ah oui, qu'est-ce que je vais décider pour 2018? C'est la même décision pour chacun de nous. Est-ce que je vais marcher avec Dieu ou est-ce que je vais le faire? Je vais marcher à ma tête. C'est possible même d'être dans une église et puis finalement d'être un peu avec cette vieille attitude de Caïn, de dire, je vais offrir les choses que moi je veux à Dieu. Je vais m'imaginer que Dieu va me devoir des choses, puis je vais passer à côté de la plaque. Mais ma sœur, mon frère, 2018, c'est pas ça que Dieu veut pour toi dans la nouvelle année qui vient. Prépare-toi à marcher avec le Dieu qui est libre et qui veut s'exprimer. J'aimerais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé pour illustrer ce que je veux dire. Il y a plusieurs années, j'avais décidé que j'allais faire une retraite de prière. Une retraite, donc j'ai pris une journée de congé de mon travail et j'allais prendre 24 heures de solitude dans la nature. J'ai pris congé, j'ai réservé une chambre dans un centre de retraite, dans un endroit reculé dans la nature, juste pour être avec Dieu. Et puis j'avais hâte d'offrir cette offrande, ce sacrifice à Dieu, où j'allais moi aussi être béni par la présence de Dieu, le temps de prière, la solitude, la grâce de l'Éternel. Mais arrivé au centre de retraite, où il y avait quand même plusieurs chambres, il y avait là une autre personne que je connaissais il y a longtemps. Alors, j'ai dit bonjour, mais au fond, je l'ai évité pendant mon 24 heures, comme j'évitais tout le monde, parce que je me suis dit, je suis là pour être seul, c'est ce que j'ai promis à Dieu. Mais là, quand je me promenais au bord du lac, en train de prier, j'ai rencontré qui? Cette personne que j'aimais pas particulièrement, je dois l'avouer. Et on a conversé brièvement, puis la conversation s'est rallongée. Et ce frère, qui était un chrétien, ce frère m'a rappelé d'une offense que j'avais commise contre lui il y a plusieurs années avant, et une offense que j'avais complètement oubliée. Puis au début de la conversation, il me parlait de ça, puis j'ai nié. J'ai dit, non, j'ai pas fait ça. Puis plus il me parlait, puis plus les souvenirs me revenaient. Puis là, c'est comme, oh, ouais, ok, ah, oh oui, oh, oh yes, ouais, ça c'est, ouais, j'ai fait ça. Et finalement, j'étais contraint de confesser, de demander pardon, et puis on s'est quitté. On s'est quitté, puis je suis retourné dans ma chambre pour bougonner, en fait. J'avais honte parce que cette offense-là me remettait devant la face un défaut de caractère auquel je voulais jamais pas penser. Jamais. Quelque chose que. Ouais. J'en voulais à Dieu d'avoir gâché ma retraite que je lui offrais. Au fond, je me demande si je ne me l'offrais pas à moi-même. Et puis, dans mon temps de solitude dans ma chambre, le Saint-Esprit a finalement réussi à me faire comprendre quelque chose. Et c'est ce que j'ai entendu, c'est qu'il me disait, « Marc, j'ai voulu cette rencontre imprévue avec ce frère. J'ai prévu ça. Cela t'a donné un pincement au cœur, ça t'a fait mal à ton ego. Mais dans ma liberté, j'ai voulu te parler pour que tu fasses un pas de plus vers moi dans la repentance. » Et donc, en rétrospective, je peux dire aujourd'hui que cette déception-là, par cette déception, je suis devenu une personne un petit peu plus mature en Jésus-Christ, un petit peu plus mûre en Jésus-Christ. Ça fait partie de cette marche avec Dieu. Vous voyez un peu comment des fois Dieu, il exprime sa liberté. Et des fois, ça peut faire mal. Donc ce matin, ma sœur, mon frère, prends ce risque de dire à Dieu, « Guide-moi dans mes pas en 2018. Je sais que tu m'aimes, Éternel. Je veux te faire confiance à 100%. C'est toi le centre, Éternel, c'est pas moi. C'est moi qui ai besoin de changer, pas toi. Parle-moi dans les choses agréables et dans les choses désagréables. » Revenez ce soir à la veillée, puis on va continuer à prier dans ce sens. Inquiétez-vous pas, là. Dieu, il a beaucoup plus de bien à nous donner que de douleur. Parce que le gros, il l'a pris sur lui-même, sur la croix. Mais il veut nous faire découvrir. Il veut nous faire découvrir le vrai chemin de sa grâce. Et je veux conclure avec cette prière que notre frère Jean-Martin, quand il est venu prêcher à l'automne, il nous a rappelé, c'est la prière de David. Puis, espérons que Caïn l'a prié. Puis nous, surtout, prions-la ce matin avec remerciement. Et je vais terminer là-dessus. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Que cette prière soit pour chacun de nous en 2018. Soyez bénis et bonne année!